Salut et bienvenue sur Ta Face B, le podcast qui nous fait découvrir chaque semaine la face cachée d'entrepreneurs et d'exécutifs dans le monde du commerce de détail et des technologies. Recommandations, passions et histoires personnelles, ils partagent tout ce qui les anime à côté de leur job. Alors très bonne écoute de ce nouvel épisode et à bientôt. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Ta Face B, où j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Sheila. Salut Sheila.
Bonjour, ça va bien?
Ouais, ça va et toi?
Ouais, très bien, merci.
Merci en tout cas de ta participation Sheila et cet épisode de Ta Face B. On va pouvoir en apprendre plus sur toi, sur tes passions, sur des histoires personnelles. Mais comme tu le sais, on va démarrer par Ta Face 1, et en 30 secondes, tu vas pouvoir nous présenter ta compagnie et ton rôle dans cette compagnie.
D'accord. Alors, je travaille pour Coveo. Coveo est une entreprise québécoise, vraiment, qui a démarré dans la ville de Québec et qui est maintenant aussi à Montréal, à Londres et partout dans le monde. Et c'est une entreprise québécoise qui œuvre dans le domaine de l'intelligence artificielle, donc vraiment d'actualité. Ouais. Puis en fait, on est chef de file pour tout ce qui est plateforme d'IA pour aider les entreprises, surtout dans quatre grands domaines, le commerce électronique, le service à la clientèle, donc tout ce qui est customer service et puis support aux clients, tout ce qui est website et aussi ce qu'on appelle workplace ou milieu de travail, donc les intranets. Donc, on offre de l'IA pour ces quatre lignes d'affaires. Et ce qu'on fait, c'est qu'on leur permet d'offrir, grâce à l'IA, des expériences pour leurs clients qui sont personnalisées. On sait que la personnalisation est de plus en plus importante. Donc, personnalisées grâce à l'IA, connectées aussi entre elles pour pas que tous ces touchpoints-là soient complètement déconnectés entre eux et fiables, donc sécuritaires. Parce que, évidemment, dans tout ce qui est digital, la sécurité est très, très importante. Donc, c'est ce qu'on fait chez Coveo depuis plus de 18 ans maintenant.
18 ans, bah bravo. Ouais. Donc, coveo.com pour nos auditeurs et auditrices qui veulent savoir plus. OK.
Exact.
Super. Merci, Sheila. On va basculer maintenant sur ta face B. On va démarrer par les sports. Ça ressemble à quoi aujourd'hui, ce que tu pratiques?
Tu vas être un peu déçue de ma réponse parce que j'en fais très peu, mais j'assiste à beaucoup de sports. J'ai deux petits garçons, 8 ans et 11 ans, qui sont, pour leur âge, dans du sport élite. Donc, pour te donner une idée, mes fils jouent au soccer tous les soirs de 4h à 5h.
Okay.
Ils jouent au hockey 4 fois par semaine chacun. Mon plus jeune est dans deux équipes de hockey, donc multiplie ça par deux, plus le football l'été. Donc, je suis à peu près toujours dans une aréna, sur un terrain de football. Je les suis. Donc, très peu de temps pour que moi, je fasse du sport. Mais j'essaie de marcher tous les matins en écoutant des podcasts, enfin, en écoutant des balados. J'essaie de marcher de 6 à 6h30, mais je considère pas ça vraiment comme du sport. Mais au moins, ça me permet de m'aérer l'esprit et d'avoir un peu de temps pour bouger et pour moi. Donc, c'est à ça que ressemble le sport dans ma vie.
OK. Non, mais ton sport, c'est d'emmener tes enfants au sport.
Donc, exactement. Et d'essayer de suivre dans tout leur agenda de premier ministre.
Dans les activités. OK. Et si tu devais nous nommer un plat que tu manges et que tu aimes manger régulièrement, ça serait lequel?
Donc, il y a deux côtés de Sheila. Il y a aussi deux faces à mon alimentation. Ouais. La première est un peu plus sophistiquée. Alors, j'aime tout ce qui est cru, donc les sashimi, les tartares et tout ça. Et de l'autre côté, ma face B, c'est la poutine et tout ce qui est fast-food. Donc, moi, je suis aussi heureuse dans un grand restaurant que dans un McDonald's ou dans une poutinerie quelque part. Mais vraiment, le cru et la poutine, je dirais que c'est mes deux repas préférés.
OK. Bah écoute, puis en plus, la poutine, est un endroit à recommander spécifiquement sur Montréal?
Ah, il y en a plein. Mais à Québec, définitivement Ashton, dans la ville de Québec. Je trouve que les Ashton sont les meilleurs. Et là, en ce moment, j'adore la poutine de chez Benny. Mais bon, je pense pas qu'on aura un sponsorship de Benny, mais c'est très, très, c'est surprenamment très, très bon. Donc voilà.
OK. Bah écoute, on enregistre ça sur l'heure du lunch. Donc,
ça donnera faim.
Exact. L'estomac qui commence à s'exprimer. On va passer maintenant sur le côté écran, grand écran, petit écran. C'est quoi le film culte que tu veux recommander à nos éditeurs et auditrices?
Alors, quand j'étais très très jeune, Dirty Dancing a été le film que j'ai écouté le plus souvent, probablement une cinquantaine de fois. Je le connais par cœur, je connais les danses, les chansons et tout ça. Donc, c'est vraiment... Et encore aujourd'hui, j'ai envie de l'écouter, mais je ne sais même pas où le trouver là, en ce moment. Mais sinon, un film plus récent qui m'a définitivement marqué. Et moi, j'adore pleurer quand on écoute des films. Ça me fait du bien. J'ai l'impression que... je sors tout le mauvais ou tout le stress ou tout. Alors, le film dernièrement où j'ai le plus pleuré, qui m'a le plus touchée, c'est La vie devant soi avec Sophia Loren. Et c'est un très, très beau film où un petit garçon un peu orphelin qu'elle prend sous son aile. Et après, ça se renverse parce que c'est elle qui a besoin d'aide et c'est lui qui l'aide. Donc, c'est une histoire fabuleuse. Très, très beau. C'est aussi un livre. Le film m'a particulièrement touché. J'avais lu le livre il y a très, très longtemps, mais le film est magnifique.
OK. Ben voilà. Écoute, c'est noté. Et si on regarde du côté des séries TV?
Séries télé, je vais parler un peu de télé québécoise. J'écoute beaucoup la télé québécoise, honnêtement. Je pense qu'il y a des belles choses dans la télé québécoise. Il y a quelques années, il y avait une série télé qui, pour moi, était culte, qui s'appelait La vie, la vie, qui était très, très bon. En ce moment, avant le crash, Plan B, sont des séries qui me parlent beaucoup. Avant le crash, j'ai adoré. Là, je suis en train de commencer la deuxième saison, qui est aussi très, très bien. J'aime la télé-réalité aussi, les trucs de Love is Blind et tout ça. Là, je suis un peu quétaine, ça me fait du bien. Et sinon, Queen's Gambit.
OK, oui.
J'ai adoré. Je trouve que c'était très, très bien joué. Les images étaient très, très belles. L'histoire était un peu différente de ce qu'on voit d'habitude. J'ai beaucoup aimé.
Oui, c'était une production Netflix, c'est ça, il y a...
Oui, exact. Probablement, oui, 2 ans peut-être, oui. Okay. Exact. Mais donc, j'essaie de vraiment varier entre la télé québécoise et la télé américaine. Il y a des trucs qui sont vraiment très, très bien au Québec, je trouve. Je leur aime beaucoup.
Exact. Voilà. Et au niveau de la musique, je pense que ça fait pleurer aussi le titre que tu as choisi comme titre culte aussi. Ouais.
Coldplay, Fix You. Écoute, je pleure tout le temps. Mes fils ont écouté un film dernièrement qui est un dessin animé qui était... je me souviens plus lequel, mais en tout cas à la fin, c'est la chanson de Fix You qui commence avec le violon et tout ça, et là, une voix pleurer, mais qu'est-ce qui se passe, cette chanson-là me fait pleurer, je l'aime beaucoup, mais j'écoute plein de choses, j'écoute Ed Sheeran, j'écoute Adele, j'écoute, je suis très pop honnêtement, là, je suis pas très alternative ou musique, nouveau genre, mes enfants m'introduisent maintenant à la musique, honnêtement, c'est eux qui m'apportent des nouveaux trucs, ils s'écoutent, donc je trouve ça hyper intéressant. Puis, une autre chanson culte que j'ai passée dernièrement, comme j'ai travaillé au Cirque du Soleil pendant plusieurs années, Alegria est quand même une chanson qui me touche particulièrement pour plein de raisons, mais qui me rappelle de très, très beaux souvenirs de quand on a relancé Alegria dernièrement. Et puis on a réenregistré cette chanson. Je trouve que c'est vraiment une très, très belle chanson. Et c'est une des chansons qui est le plus jouée dans les mariages au monde. Donc, ça reste une grande, grande chanson créée par le Cirque du Soleil. Donc, j'aime beaucoup.
Très fier de cette chanson-là.
Ouais, vraiment, vraiment.
Parfait. Au niveau des lectures, c'est quoi le livre que tu veux recommander à notre audience?
J'ai beaucoup lu, plusieurs fois, le livre de Marshall Goldsmith qui est « What got you here won't get you there ». Il a aussi écrit un autre livre qui s'appelle « How Women Rise, 12 Habits That Are Holding You Back ». Ça me parle beaucoup parce que c'est vrai que les femmes, parfois, on a vraiment des habitudes qui nous bloquent nous-mêmes à croître en entreprise. Des hommes aussi, probablement, mais bon, je vais parler de ce que je connais. Il parle là-dedans de perfection trap, par exemple, qu'on essaie toujours de faire des trucs à la perfection. Puis tout ça. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Puis j'y retourne assez souvent, en fait, dans ce livre-là. Puis je retourne lire quelques sections ici et là. Donc, ces deux livres-là, pour moi, ont vraiment été des guides dans ma carrière. Et puis, il y a un autre livre en ce moment qui est toujours sur mon bureau, qui s'appelle « ABM is B2B ». Dans le B2B, donc Coveo, évidemment, je fais du marketing B2B, ma caméra est comme... ABM, c'est vraiment un truc très account-based marketing, donc vraiment, c'est une transformation de la façon dont on fait le marketing. Et ce livre, ABM is B2B, c'est un peu ma bible pour le ABM. Là. Je l'ai lu plusieurs fois, je l'ai re-relu dernièrement, donc c'est vraiment un très bon livre pour pousser cette nouvelle façon de faire du marketing dans le B2B.
Oui, donc un livre qui supporte effectivement ta face. Ah, c'est vraiment une lecture qui va...
C'est plutôt des livres de... Oui, en effet, mes lectures supportent beaucoup plus ma face A que ma face B. Okay. J'ai beaucoup moins de temps à lire des trucs un peu plus divertissants. Donc, c'est plutôt des livres de business ou de développement personnel.
Et est-ce que c'est pareil au niveau des balados? Tu nous as dit qu'effectivement, lors de tes marches matinales, tu mettais des balados dans tes oreilles. Est-ce que c'est pareil? C'est des balados plutôt... orienté face A ou...
Un peu les deux. Un peu les deux, je dirais. J'écoute des balados de en ce moment de B2B aussi, de ABM. J'écoute des balados. Je suis pas vraiment, je dirais, fidèle à mes balados. Ouais. Je passe plutôt de sujet en sujet, mais il y en a quelques... Des TED Talks que j'écoute, TED Talks Daily, qui est un balado que je regarde, que j'écoute. Mais aussi, je réfléchis dernièrement, il y a quelques balados que j'ai écoutés, par exemple Captive, qui est un balado québécois sur des crimes, des disparitions qui sont arrivées au Québec, et c'est un peu l'histoire, on relate l'histoire de ce qui s'est passé là-dedans. Je trouve ça fascinant. Puis il y avait un livre dernièrement que j'ai acheté pour un cadeau pour une amie sur ce balado. Mais aussi des balados de bien-être, de gestion du temps, de la motivation, tout ça. J'aime beaucoup ça. Et puis je vais plutôt par sujet qu'une seule personne ou un balado que je suis. Je m'intéresse plutôt à les sujets avant tout. Donc, j'en écoute beaucoup. J'en écoute presque chaque jour de balado.
OK. Et puis, pareil, j'imagine quand tu es dans l'aréna avec tes enfants en train de sport, un petit balado dans les oreilles.
Oui, mais le problème, c'est qu'ils veulent vraiment que je sois concentrée sur leur jeu. Et si sur mon téléphone, comme ça, ils me le reprochent. Donc, je fais vraiment gaffe maintenant à être vraiment concentrée et à les regarder parce qu'après, ils me disent « T'as vu, là, mon jeu et tout ça? » Oui, j'ai bien vu. Mais non. Donc, il faut que je reste concentrée. Donc, j'essaie de pas avoir trop de technologie autour de moi quand je suis à l'aréna.
Parfait. On va basculer maintenant sur la deuxième partie de ce podcast-là. Et on va parler des passions hobbies. C'est vrai que tu nous as parlé de tes enfants, d'accompagner tes sports, d'accompagner tes enfants aux différents sports. Tu nous as parlé de la bouffe, etc. Qu'est-ce que tu as le temps aussi à côté de ta face A au niveau des passions et des hobbies? Qu'est-ce que tu as le temps de faire d'autre?
Ben, pas beaucoup, honnêtement. Je dirais que c'est vraiment ce qui me passionne. C'est définitivement passer du temps avec mes enfants. Mais sinon, les restos. Vin, je suis vraiment une épicurienne, j'aime faire de la bonne bouffe à la maison, aller dans les bons restos, je suis souvent celle qui va réserver les restaurants pour les autres parce que j'aime bien m'intéresser à tout ça. J'ai écouté le balado de Élise de Tastet, j'adore son site d'ailleurs parce que je trouve que c'est une bonne référence pour ça. Donc c'est vraiment ce que je fais le plus souvent. Sinon, je vais dans les spas pour vraiment pouvoir me recentrer puis trouver du temps pour moi. Je vais aller parfois, je suis dans les spas un peu, tu sais, le chaud-froid, dans les bains, tout ça, avoir un massage. Ça, c'est le temps pour moi, toute seule, quand j'ai besoin de me recentrer un peu.
OK, super. On va voyager maintenant avec toi et tu voulais nous parler d'un voyage mémorable qui était ton premier voyage que tu avais organisé. Justement, tu parles d'organiser des voyages, etc. C'était ton premier voyage familial, c'est ça?
Ouais, ben écoute, on en a fait quelques-uns, mais le premier qu'on a recommencé après la COVID à voyager, on est parti en Europe. On en a fait deux depuis, donc avec les enfants. Et puis, j'étais pas certaine s'ils allaient être des bons voyageurs, le décalage horaire, manger plus tard et tout ça. Mais en fait, j'ai découvert que c'est des petits garçons qui s'adaptent vraiment rapidement puis qui adorent voyager. Donc oui, on a fait deux voyages en Europe dans les dernières années, donc de deux semaines là, où on est parti là-bas, où on loue des maisons puis on se promène un peu. Et c'est vraiment fascinant de voir l'Europe à travers leurs yeux. Par exemple, moi, j'ai vécu à Paris pendant 3 ans, puis là, on est allé cet été avec eux, puis de voir Paris à travers les yeux de mes enfants, je trouve que c'est fascinant. Parce que quand j'ai vécu là-bas, j'avais pas d'enfants, je pensais même pas. Et puis maintenant, j'y retourne avec mes enfants. Donc, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant de leur faire voir le monde. Je trouve ça fascinant. On a fait, la première année, on est allé sur la Costa del Sol, en Espagne. Et puis là, cette année, on a fait Paris. Ensuite, on est allé vers Marseille et puis après, on est allé à Barcelone. Donc, puis on est revenu à Montréal. Et donc là, on réfléchit à notre prochaine destination en famille, mais c'est vraiment quelque chose que je veux faire avec eux le plus souvent possible pour qu'ils soient intéressés par découvrir le monde et voir autre chose.
Oui, puis comme tu le dis, l'Europe, en plus, elle a croisé différentes langues, différentes cultures. Bon, ici, au Québec, on a la chance aussi d'avoir le français, l'anglais, puis même un peu l'espagnol si on descend aux États-Unis. Donc, c'est vrai que c'est... Mais donc le prochain voyage, ça serait aussi Europe ou ça serait une autre région dans le monde, un autre continent?
Ouais, mais je pense l'Europe encore. Honnêtement, j'ai une amie qui vient tout juste déménager à Londres, donc peut-être que Londres sera une destination pour mes enfants et nous aussi. Mais j'aimerais bien voir les pays scandinaves, j'aimerais aller à Berlin avec eux. Donc, il y a vraiment plein de destinations qui nous intéressent. Il va falloir choisir, c'est le plus difficile, en fait, mais oui, en fait, puis de pouvoir voir aussi, d'essayer de nouvelles types de nourriture, j'aime bien qu'ils expérimentent plein de choses, donc si je pouvais aller au Japon avec eux, j'irais, parce que je suis une fan de cru et de sushi, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est un peu loin encore pour eux, la distance en avion est un peu trop loin, donc j'attendrai peut-être encore un peu pour le Japon, mais c'est sur ma bucket list, je suis jamais allée au Japon moi-même, donc j'aimerais beaucoup y aller.
Super, bah écoute, c'est déjà une to-do list, on en reparlera juste après, mais qui est déjà bien remplie. Et on va revenir un peu dans le passé, justement, t'en parlais alors de l'Europe et de ton moment de vie en Europe et à Paris, enfin en France plus précisément. Est-ce que tu veux nous parler justement de ce moment marquant de vie, c'était quoi le contexte et pourquoi ça a marqué justement ta vie?
Ouais, écoute, moi j'étais chez L'Oréal à ce moment-là, j'ai été 12 ans chez L'Oréal, ça a été vraiment le cœur de ma carrière, c'est là-bas, j'ai tout appris là-bas. Puis chez L'Oréal, il essaie vraiment de pouvoir faire en sorte que les gens aient travaillé à Paris ou à la maison mère pour pouvoir éventuellement devenir general manager et avoir des positions un peu plus élevées. Mais moi, je refusais à ce moment-là. J'étais en couple, j'avais une vie ici, j'avais un peu peur de m'expatrier. Et là, finalement, je suis célibataire, j'ai plus vraiment d'attache ici. Je me dis, bon, OK, c'est le temps d'y aller, mais je pars toute seule. J'ai pas d'appartement là-bas, j'ai rien, je connais personne. J'ai trouvé ça... J'avais vraiment peur de ce qui allait arriver. Les trois premiers mois, j'avais pas d'amis du tout. Je veux dire, mon téléphone cellulaire n'a jamais sonné. J'avais les manger au restaurant toute seule. C'était pénible. Mais au fur et à mesure, j'ai commencé à me faire évidemment des amis, des connexions, de prendre bien mon travail là-bas et de mettre à voyager aussi parce que Paris, c'est à 2 heures d'à peu près toutes les grandes villes. On achetait nos billets très tard le soir et c'était vraiment pas très cher. Donc là, j'ai vu le monde que je n'avais pas vraiment vu autant avant. J'avais voyagé un peu, mais jamais autant que je l'ai fait quand j'étais là-bas. Après, j'ai une amie qui est venue vivre à Paris. On a vraiment eu... Ça a été des années exceptionnelles. Célibataire, expatrié, donc mon appartement était payé. J'avais plus d'argent que probablement que j'en fais aujourd'hui. Et puis, j'ai vraiment profité de la vie. On travaillait très, très fort. Chez L'Oréal, la semaine, c'était très fort, mais c'est work hard, play hard, vraiment. Là, le week-end, on en profitait au maximum. J'ai adoré. À un moment donné, là, je m'étais dit, je me suis réveillée, j'avais presque 30 ans, j'ai dit, ouais, là, il faudrait que je m'occupe de ma vie personnelle. Et je voulais pas nécessairement avoir ma famille loin de ma famille à moi, loin de mes parents. Donc, je suis revenue à Montréal. Et puis là, ben, j'ai rencontré 4 jours plus tard, pour la petite histoire, j'ai rencontré celui qui est devenu mon conjoint et le père de mes enfants.
Juste après. OK, ouais. Ouais, c'est un super signe, ça. Et c'était combien d'années à Paris, tu dis?
3 ans, de 2006 à 2009.
2006-2009, OK. Ouais. Ok, ben écoute, ouais, c'est un super moment de vie, merci pour le partage, et puis comme tu le dis, ça t'a permis d'en profiter, et puis après de te dire, ok, c'est quoi la prochaine étape de ma vie, là, et où est-ce que je m'en vais?
Exact.
Et justement, si on regarde un peu le futur, tu parlais justement du Japon que tu mettais sur ta bucket list pour les prochaines années, il y a quoi d'autre dans tes projets, que ce soit personnel, professionnel?
Ouais, ben évidemment, je pense de passer de pouvoir participer à la vie active de mes enfants encore plus, de me permettre de pouvoir le faire. C'est sûr qu'en étant CMO, parfois, c'est difficile de pouvoir être là le soir avec eux et tout ça, mais je fais vraiment cet effort-là. Je veux pas manquer ces moments-là. C'est très important pour moi d'être avec eux dans ça, puis qu'ils sentent que je les supporte dans tout ce qu'ils font. Donc ça, c'est important. Voyager avec eux. J'aimerais pouvoir faire un voyage par année, si c'est possible, pour pouvoir leur donner la piqûre du voyage puis qu'ils le fassent après. Donc ça c'est important, pouvoir passer aussi voyager toute seule avec mon conjoint, ça serait super, mais bon, c'est plus difficile de trouver le temps, mais j'aimerais beaucoup, ça fait partie des projets qu'on a ensemble évidemment. Avoir une maison en Italie, mon conjoint est italien haïtien, donc son père est haïtien, sa mère est italienne, on aimerait bien éventuellement pouvoir avoir un pied-à-terre en Italie, ça serait un de nos rêves. Okay. Côté professionnel, ben écoute, chez Coveo, c'est une boîte exceptionnelle qui est en grande croissance, donc je ne pense pas à faire autre chose à court terme. J'aimerais bien pouvoir me joindre à des boards comme membre d'un conseil d'administration, donc je suis là-dessus, là, peut-être des nouvelles à annoncer bientôt. Okay. Mais ça, j'aimerais bien pouvoir compléter ma carrière avec ça, puis pouvoir redonner un peu ce que j'ai appris, enseigner peut-être, faire des conférences, c'est le genre de trucs qui m'intéresse, de pouvoir redonner ce que j'ai appris et éviter peut-être à certaines personnes de faire certaines erreurs que moi j'ai faites.
OK. Ben écoute, c'est pas mal, il y a beaucoup de choses.
beaucoup de choses, exact. Je suis déjà fatiguée, je vous en parle.
Parfait. Sheila, on finit ces épisodes-là par une anecdote, ou en tout cas, je pense que toi, tu as une autre. Tu disais que tu étais CMO effectivement chez Coveo, mais je pense que toi, tu as une autre définition de cet acronyme.
Je dis toujours que je suis Chief Marketing Officer et Chief Mom Officer. C'est vraiment. Puis je pense que c'est très la face A puis la face B, en fait, de ce que je suis. Et puis j'essaie vraiment de ne pas avoir de regrets des deux côtés de ces deux Chief Mom Officer et Chief Marketing Officer, sans non plus être dans la culpabilité constamment de dire « Ah, oh, je suis pas assez avec mes enfants » ou « Je suis pas assez ça ». Je fais mon possible des deux côtés, Je donne mon max des deux côtés et j'essaie de jamais me flageller, de ne pas être trop d'un côté ou de ne pas être trop de l'autre. De vivre les deux à 100% puis de prendre des décisions qui sont parfois difficiles à dire, ben là, je vais pas aller à ce voyage d'affaires-là parce que je veux être là avec mes enfants ou ben je vais pas être là à ces parce que là, je dois être à cet endroit-là et c'est correct aussi. Ouais. Donc, c'est une balance qui est pas facile à trouver, mais je pense qu'on y arrive pas trop mal puis aussi parce que mon conjoint et moi, on est une bonne équipe puis on peut bien séparer les choses.
Ouais.
Ça peut marcher. Donc, ouais, c'est un peu, je pense... Ma petite anecdote à moi, qui est Chief Marketing Officer, Chief Mom Officer, et les deux sont au même pied d'égalité.
Oui, bah je pense que toutes les femmes CMO qui vont écouter ce balado risquent de reprendre cette définition également pour leur face B. Je trouve ça très, très malin, effectivement, le SCMO version face A, SCMO version face
B. Exact, exact.
Parfait. Bah écoute, merci beaucoup, Shayla, d'avoir partagé ta face B aujourd'hui avec nos éditeurs et auditrices. Donc, merci, Shayla.
Merci à toi. Merci beaucoup. Un plaisir. Merci pour l'invitation.
Et bah écoute, ravi en tout cas de t'avoir eu. Et à tous nos éditeurs et auditrices, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode de ta face B. Je vous souhaite une très bonne semaine d'ici là.